30 minutes chrono, l'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono. Alors 30 minutes chrono pour ce samedi, la chronique de la Babale Carrée ira cette semaine hors de nos frontières. Pour se pencher sur le cas du rocher monégasque, nous ferons un tour du côté du stade Louis II, de la Turbie et même de la Russie. Drôle de club pour la Ligue nationale de football, qui est bien la seule à compter dans ses rangs un club non domicilié sur son territoire. L'invité, 30 minutes chrono, recevra un invité de marque en la personne de Gérard Sastre, qui viendra nous parler des Diables Rouges. Alors les Diables Rouges, ce sont nos rugbymen qui ont la particularité d'évoluer à 13. Un sport qui mérite quelques explications, un peu d'histoire, nous parlerons de cela avec notre invité, mais surtout du présent, de l'avenir et des échéances qui s'annoncent nombreuses pour nos 13istes. Enfin, quelques informations sur nos surdoués de l'agglomération comme d'habitude. Chronique de la Babale Carrée. Alors après la musique de Strauss, intéressons-nous cette semaine à un rocher enclavé dans le territoire hexagonal. Sur la Côte d'Azur, il existe en effet une principauté, pas que d'opérettes, où les princesses épousent de beaux courtisans, où les princes convolent avec des stars de cinéma. Cette version hollywoodienne de Monaco a vécu. Aujourd'hui, les princesses divorcent et fréquentent des roturiers. Le prince a fini par épouser une nageuse sud-africaine après avoir enfanté une hôtesse de l'air. Et le club rouge et blanc a été longtemps en perdition, en proie à des difficultés financières inimaginables. À l'ombre pourtant des casinos. Pourtant, Par un coup de baguette magique, comme seul il peut en y en avoir dans les contes de fées, l'AS Monaco, septuple champion de France et quintuple vainqueur de la coupe du même nom, semble revivre de ses cendres pour occuper le devant de la scène hexagonale avec des vues prononcées sur l'Europe. Il y a quelques hics dans cette histoire trop belle pour être neutre. La fiscalité locale pour les ressortissants étrangers, la domiciliation du siège du club hors du territoire de la Ligue qui organise le championnat auquel participe l'ASM, et puis les Russes qui envahissent la Côte d'Azur en achetant des villas somptueuses, et donc aussi un club de football, pas n'importe lequel, celui du Prince Albert. Dimitri Evgenievitch Ribolovlev, excusez-moi de la prononciation, est le propriétaire ou du moins l'actionnaire majoritaire de l'ASM. Qui est-il au fait ? Ce cardiologue qui ne soigne pas les gens mais les entreprises et qui amasse une fortune située au 100e rang mondial approximativement. Un de ces milliardaires russes qui ont poussé comme des champignons sur l'engrais de feu l'URSS. Justement, les engrais, il connaît. Il était à la tête d'Uralkali, l'une des sociétés possédant le plus d'engrais potassiques au monde. Il se fâche avec Poutine, il s'exile à Monaco, il traverse un divorce féroce sur fond de roubles. Il fait de la prison dans le cadre d'une enquête pour le meurtre d'un directeur général d'une entreprise dont il était actionnaire. En 2006, l'effondrement d'une importante mine d'Uralkali à Berezniki freine la faste croissance de l'entreprise et engendre un véritable désastre écologique ainsi que des milliers de déplacés. 50 millions de tonnes de potassium sont perdues. Les centrales électriques sont annihilées. Mais la commission d'enquête exonère l'entreprise et conclut à une catastrophe naturelle inévitable. Après son entrée en bourse à Londres, l'action de la société prend 300% en 8 mois, avec l'explosion du cours de la potasse. Ribolovlev fait son entrée dans les 100 plus grosses fortunes, comme je vous le disais, du monde en 2007. Poutine se fâche encore et réclame une amende pharaonique à Ribolovlev. Ensuite, c'est des histoires de paradis fiscaux, encore plus sûrs que Monaco, et au bout du chemin, le passeport monégasque afin d'échapper aux foudres de la mère patrie, la pas très sainte Russie. C'est là où Dimitri, en échange d'un fort investissement pour le club de la principauté, se fera, disons, blanchir, si j'ose dire, par le prince Albert. Depuis, la Ligue nationale de football, toujours à la recherche de plus d'argent pour entretenir son train de vie délirant, cherche des poux à l'ASM. Mais c'est comme pour les poupées russes. On croit avoir une poupée et dans la poupée, il y en a une autre. La Ligue avait obligé Monaco, le 21 mars dernier, à déplacer son siège social en France et ainsi à être soumis, comme les autres clubs, à la fiscalité française. Oui, mais est-ce que juridiquement c'est possible ? Les nouveaux princes oligarches du Rocher ne sont pas en manque de procédure. Le Conseil d'État a été saisi pour un recours en annulation qui peut tout à fait aboutir. En plus, le club s'engage à investir dans les footballeurs français. Et si le siège du club est envoyé en France, pourrait-il ? Juridiquement parlant, jouer à Monaco, qui devient un terrain de sport étranger. Bref, vaste tempête dans un verre de vodka. Mais tout va rentrer dans l'ordre. Et Dimitri va pouvoir continuer à entretenir sa danseuse monégasque sans que les vilains responsables du foot hexagonal ne l'empêchent de faire ce que bon lui semble, avec sa fortune acquise dans les engrais. Et c'est bien connu, l'engrais, cela sert à faire fructifier la semence.
Thank you. Калинка, калинка моя, в саду ягод малинка, малинка.
Aujourd'hui, ce sera l'invité. Trente minutes chrono devait recevoir Gérard Sast, le président des Diables Rouges, Norudbinan, qui joue à 13. Cependant, un impératif de dernière heure et une histoire de voiture qui ne fonctionnait pas ne permet pas à ce président de Montpellier à 13 d'être présent. Alors, on va devoir faire une émission peut-être un peu plus écourtée, bien entendu. Je vais quand même parler un peu du 13, mais je le ferai évidemment beaucoup moins bien que ne l'aurait fait Monsieur Sastre. Alors, le Montpellier 13 est un club donc de rugby qui a été créé en 1953. Alors, pendant longtemps, il a été en 3e division, ce qu'on ne pourrait pas appeler la Nationale 1 maintenant. Dans la fin des années 90, les bonnes performances de l'équipe expliquent un renouveau du 13 à Montpellier. Il avait fait des performances honorables dans les années 80, mais le club retombe dans l'oubli dans les années 90. En National 3. Sans aucun lien avec la section universitaire de rugby à 13 de là aussi, et devant des maigres supporters et de fans, c'était plutôt un club, on va dire, familial de joueurs et de dirigeants. S'apparentant alors une petite entreprise familiale désargentée, peinant à rassembler ses cadres aussi bien sur le recrutement des jeunes talents étrangers qu'en associant avec des anciens d'ici. Ils vont dans une expérience intéressante d'entraînement collectif mener le club jusqu'à la victoire finale du championnat de France de rugby à 13, National 3. Voilà, on en était. Ensuite, évidemment, ça s'est amélioré et maintenant, donc, ils ont la chance de jouer au stade Sabaté qui a été délaissé par les 15istes et qui joue maintenant, comme vous le savez, au stade Yves du Manoir construit pour la Coupe du Monde 2007. Alors, il y a des événements qui vont se passer autour du 13 et notamment, on attend un très important France-Samoa. Car il faut savoir quelque chose, si le rugby à 13 n'est pas tout à fait pratiqué beaucoup chez nous. C'est un sport d'équipe qui est opposant pendant 90 minutes de formation, donc de 13 joueurs, et pouvant utiliser leurs mains pour porter le ballon ovale comme les autres rugbymen. Bien qu'il soit universellement connu comme l'un des deux codes principaux du rugby, il se vit contraindre en France pendant des années à s'intituler le jeu à 13. Bon, le jeu à 13, maintenant, on appelle ça le rugby à 13. C'est un sport un peu méconnu en France, malgré un riche passé. Il est extrêmement populaire en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Angleterre et dans tout le Pacifique, ce qui explique l'engouement qu'il risque d'y avoir pour ce match international entre la France et les Samoa. Au niveau du championnat d'élite 1, qui vient de démarrer. Pia est champion de France, mais ne défendra pas son titre. Les banlieusards perpignanais ont connu un été agité, achevé par une mise en sommeil, semant le trouble dans un championnat de France déjà secoué par le forfait d'autres équipes. Mais comment faire face à un événement que personne n'avait osé imaginer ? Le président de la fédération, Carlos Saldudeno, comment expliquer l'inexplicable ? La raison, Guy Parès, le maire de la commune de Pia, le bailleur de fonds du club de Pia, omniprésent, omnipotent, on pourrait dire, il décide au cours de l'été, sur fond de guerre politique en vue des municipales, de ne plus apporter son soutien au club. Pia n'a pas été mis en sommeil pour des raisons financières, mais parce que son bureau directeur a décidé de ne pas repartir. On a essayé de comprendre, mais Pia ne s'est pas réengagé dans le championnat d'élite. Et Pia a été remplacé par Paolo. Un coup dur pour un championnat en mal de reconnaissance que les dirigeants ont réorganisé de fond en comble. Il se jouera en deux phases, la première mettant aux prises d'une part les 8 clubs de l'élite 1 et d'autre part les 12 de l'élite 2, répartis en deux poules géographiques de 6. Au terme de cette première partie, poursuit le président, une seconde phase débutera avec 5 poules de 4 clubs. La poule A regroupera les 4 meilleures équipes de la poule élite 1 et donnera 2 billets directs pour les demi-finales. Dans la poule B et C, deux des derniers de l'élite 1 et les premiers de l'élite 2, on se battra pour jouer les quarts de finale à domicile. Dans les poules D et E, on jouera pour une place en barrage. Cette nouvelle formule doit redonner un dynamisme à un sport qui pourra s'appuyer sur la Coupe du Monde. Deux matchs du 13 de France seront joués sur le sol français, en Avignon le 1er novembre contre les champions du monde néo-zélandais, puis à Perpignan le 11 novembre contre les Samoa. À nous de profiter de cet événement qui sera un succès. Il y a déjà 14 000 billets qui ont été vendus pour le match d'Avignon, pour accompagner les clubs et accueillir de nouveau donc, des nouveaux licenciés. Voilà, un sport donc un peu qui a du mal à retrouver le faste d'antan.
Le lancer du CD.
People, north and south, this is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Money, 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 money.
Walking on a beach all disenchanted, black moose in my heart. Anything you want now, they can stop me. Energy goes dead. Riviera buildings, high depressing, look like cookie boxes. In my heart a hurricane's blowing, in my head a clock ticks.
quelques résultats de nos surdoués valeureux de l'aglo multivitaminé.
Alors, on va parler de quelques événements qui vont avoir lieu dans peu de temps sur l'agglomération de Montpellier. Alors, on peut dire en multisport, il y aura à partir de ce week-end du 13, là, dimanche, le mercredi 16 aussi, mais aussi le week-end d'après, samedi 19, dimanche 20 octobre, au Parc des Expositions à Pérol, et ben c'est pendant la Foire internationale de Montpellier. Alors le comité départemental olympique et sportif propose, avec le concours évidemment du comité départemental de l'Hérault et du soutien logistique d'Hérosport, 5 journées d'animation sportive dans le cadre de la Foire internationale de Montpellier. Alors il y aura des tas de disciplines sportives que vous pourrez découvrir, l'athlétisme, l'aviron, le handball, la pétanque, l'escalade, le rugby, le football, le cyclisme, le bowling, l'haltérophilie, le tir à l'arc, le basketball, et sans bien entendu ne pas oublier les ateliers handisport. Il y aura aussi baby gym et motocycle pour les plus petits. Voilà, donc un événement à ne pas manquer si vous faites un tour au parc des expositions pendant la foire de Montpellier. Ensuite, à Pierre-Vive, donc là où il y a maintenant, vous savez, ce grand bâtiment, la sortie du côté de la Paillade, le comité départemental de l'Hérault de volleyball va fêter son 50e anniversaire avec le concours du département de l'Hérault, bien sûr. Les bénévoles qui ont contribué tout au long de ces 5 décennies à développer cette discipline phare dans le département seront reçus et on aura l'occasion de faire quelques démonstrations. Cette manifestation aura lieu à quelques pas de la nouvelle maison départementale des sports où le comité dépose maintenant de locaux, disons, flambant neufs. Je vous donne quelques résultats. Alors, par exemple, l'équipe de waterpolo de Montpellier vise la coupe de la Ligue et le championnat. Il a été, vous le rappelez, champion de France il y a 2 ans et l'an dernier, simplement distancé par Marseille. Alors, ils ont commencé le championnat avec un succès 19-7 contre Senlis. Antigo accueillera également l'équipe de France de waterpolo du 7 au 10 novembre, lors du 3e tournoi qualificatif au championnat d'Europe. Nos gazelles, vous savez, les gazelles du basketball, se déplacent à Angers ce samedi à 20h pour la 2e journée donc, de la Ligue de basketball féminine. Quant à nos hockeyeurs, les Vipers, bah, ils sont en train de recevoir actuellement à Vegapolis Annecy. Avant de nous quitter, je vais vous donner quelques bons mots ou par quelques informations qui proviennent des entraîneurs les plus emblématiques de l'agglomération. D'ailleurs, ces paroles avaient été reprises dans le journal Montpellier Aglo de septembre 2013, bien sûr. Alors, Philippe Blin, qui est l'entraîneur donc, du volley, dit « Nous devons aussi reconquérir le public, faire que les gens aient envie de participer à notre aventure. Le volley est le sport numéro 2 dans le monde. » Tout le monde ne le sait pas. Et au bord du terrain, on est bluffé quand on voit la vitesse et l'explosivité du jeu. Venez nous voir, dit-il, il y aura du spectacle. Alors Jean Fernandez, lui, eh ben, c'est le nouvel entraîneur de Montpellier Hérault. Alors lui, il dit notre ambition est de titiller les grands du championnat. Mais en foot, vous savez, tout est possible. Un jeu de qualité, des joueurs qui vont mouiller la maillot et de nombreux jeunes formés au club sur le terrain. Vous avez donc les trois raisons pour venir encourager notre équipe. Fabien Vasseur, lui, est entraîneur du Montpellier Waterpolo, dont on parlait pour quelques résultats. Alors, cette jeunesse est la force pour lui. Cette équipe a été restructurée. De nombreux jeunes du centre de formation nous ont rejoints. Alors, il cite quelques joueurs comme Corentin Molina, Karl Martel ou Dimitri Sarah Volak. Le challenge sera de les mettre en confiance aux côtés des piliers habituels. Et donc, notre objectif est de gagner le titre de champion de France qui nous a échappé de peu l'an dernier, comme je vous le disais. Le waterpolo s'impose petit à petit à Montpellier, mais aussi au plan national. On va parler avec maintenant, enfin, entendre Valérie Desmory, l'entraîneur du basket LAT Montpellier Agglomération. Alors ça, c'est les filles. Hein. Cette année, nous avons formé une équipe plutôt jeune aussi, composée à 90% de joueuses françaises. Le basket féminin français se porte très bien. Il y a un vrai potentiel que nous avons eu envie d'exploiter. Pour compléter notre effectif au poste de meneuse, nous avons recruté Ingrid Tanqueray, 25 ans, de Mondeville. Et voilà, etc., etc. Alors, quel est le club? Le club aligne des bons résultats depuis des années. En pariant sur la jeunesse, nous avons un nouveau challenge à relever. Nous allons offrir du jeu encore plus vivant, plus attractif pour le public et nous espérons qu'il viendra nombreux, bien entendu. Pour Fabien Galthié, l'entraîneur du Montpellier Rugby, nous avons cette année un effectif ambitieux, et de plus grande qualité. Alors, il dit que j'ai la chance de pouvoir compter aussi sur les espoirs du centre de formation, qui ont été champions de France en 2013. 10 d'entre eux ont déjà fait des matchs avec nous en top 14. Et enfin, on va terminer avec Patrice Canaillère, c'est l'entraîneur de Montpellier Agglomération Handball, qui, vous rappelez, ont eu beaucoup de difficultés l'an passé avec des tas d'histoires dont on a eu l'occasion de parler dans ses émissions. Alors pour lui, le plus important, c'est de donner une bonne image du club, de l'équipe et du sport dans l'agglomération de Montpellier. Ça veut dire gagner des titres, bien sûr, mais être compétitif. Il y a aussi la dynamique qu'on impulse, la manière dont on joue et surtout le comportement. L'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono.